c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bonjour à vous que je retrouve avec grand plaisir. Alors j'espère que cette journée a bien commencé pour vous. Alors nous allons faire pour qu'elle se continue bien et surtout de façon agréable. Bon, je sais, entre Halloween et avec ses couleurs orangées et Noël avec sa couleur rouge, en plus de toutes ces feuilles tombées ayant mis par terre toute leur beauté éblouissante, jaune, verte, mordorée, rouge, je sais que cette époque de l'année nous semble un peu terne et n'éveille pas particulièrement la magie en nous. Eh bien allez, je vais justement vous coloriser ou vous colorer, c'est comme vous voulez, hein. Vous prenez le terme qui vous convient. Ce petit instant, tenez, 2 minutes de couleur avec Benabar.
Quand on la gêne, à lèvres qui finit sur les miennes, le tapis rouge je lui déroule. Jaune, comme son rire un peu gêné, week-end pluvieux, jaune le ciré, une plage du nord y avait pas foule, les pieds mouillés, le chien maboule. Elle m'en fait voir toutes les couleurs, la totalité de l'arc-en-ciel, le nuancier de ses humeurs. Bleu, les hématomes de nos reproches, quand on se fait mal, quand on s'amoche, peur bleue de la perdre si forte. Comme ses yeux qui tirent un peu vers le kaki quand on regarde mieux, verte de rage quand elle s'emporte, envers contre tout elle m'emporte. Elle m'en fait voir toutes les couleurs, la totalité de l'arc-en-ciel, le nuancier de ses humeurs. Quand elle s'absente trop longtemps, je vois tout en noir, je broie du blanc, je suis transparent. Je suis transparent. Rose, je vois la vie en rose parfois. Elle me parle tout bas, sauf qu'Edith Piaf chante pas tout le temps.
Edith Piaf chante pas tout le temps. Elle m'en fait voir toutes les couleurs, la totalité de l'arc-en-ciel, le nuancier de ses humeurs. Quand elle s'absente trop longtemps, je vois tout en noir, je broie du blanc, je suis transparent. Je suis transparent. Elle m'en fait voir toutes les couleurs. Elle m'en fait voir toutes les couleurs. Elle m'en fait voir toutes les couleurs.
Voilà, eh bien, il a la bonne personne à côté de lui, notre Benabar. Il a la bonne personne pour voir la vie en couleur. Alors, couleur verte aujourd'hui pour notre rubrique Saletant sur la planète, car nous parlerons de l'arbre, puisque nous sommes en plein festival, à savoir que du 18 au 26 novembre, le festival de l'arbre, impulsé par la région, prendra racine dans plusieurs villes des Hauts-de-France pour célébrer le patrimoine forestier de notre territoire. Alors, promenade dans les forêts giboyeuses, plantations volontaires, ateliers pratiques, rencontres avec les acteurs qui gèrent et prennent soin des arbres. L'objectif sera de sensibiliser le grand public à la beauté et à la préservation de ces écosystèmes riches et fragiles. Et bien sûr, l'association L'Étrême Nature a elle aussi son initiative menée par le passionné Jean-Louis Ouatté, son président. Et nous en parlerons encore de cet arbre avec Bertrand Trinel dans notre rubrique Jardiner autrement. Et puis, en point de mire aujourd'hui, une belle initiative initiée en effet il y a près de 30 ans au Québec. Les coopératives jeunesse de service ont fait leurs preuves et sont actuellement déployées en France. Alors à Bruay-la-Buissière, ils sont 11 jeunes à vouloir tenter l'expérience et aujourd'hui ils seront présents avec Amandine Desquennes qui nous parlera de ce beau projet dont elle fait partie. Et tout ça, c'est sur votre radio, Radio Plus. Alors sinon, savez-vous que le mois de novembre, c'est le mois où on arrête de fumer? Je suppose que avec toute la campagne de publicité qui est faite autour, vous le savez. Et oui, c'est le mois sans tabac. Comme en 2016, le mois de novembre 2007 est donc de nouveau l'occasion d'inciter les Français à arrêter de fumer avec cette deuxième édition du mois sans tabac. Alors l'idée, c'est d'encourager les fumeurs à tenir un mois sans cigarette en espérant créer le déclic pour un abandon définitif du tabac. Le sevrage durant un mois multiplierait en effet par 5 les chances d'arrêter le tabac définitivement. Et on croise les doigts.
De 150 milliards de morts par an, cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète, faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Serge Gainsbourg savaient déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos. Ses doigts nerveux, longs et secs, couraient dans les cordes comme sa topèque. Cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine, luttant pour mon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Tatsimo, abrap, develop, zapta, bab, bébéda, I come to stay, arnob, to stay, I come to your ass, we'll be a member, we'll be a member, we'll be a member, we'll be a member,
San Severino sur Radio Plus. Alors, notre enquête dans l'air du temps. Il paraît que les enfants sont funestes pour le sommeil nocturne, en tout cas pour les femmes de moins de 45 ans. C'est ce que concluent des chercheurs américains ayant mené des enquêtes téléphoniques parmi près de 6000 femmes adultes. Alors, parmi les femmes interrogées qui avaient encore des enfants à la maison, moins de la moitié d'entre elles dormaient suffisamment la nuit. Chaque enfant augmente le risque de manque de sommeil de 50%. Et chez les hommes, il paraît que la présence d'enfants n'avait aucune influence sur le nombre d'heures de sommeil. Tiens donc.
Briser le rêve d'un enfant, c'est peut-être forcer le monde à devenir un peu trop grand, une boule trop ronde. Le rêve tient de la magie, c'est la porte qui reste ouverte, c'est tout ce qui donne à la vie l'envie d'en être. Marchand de sable, marchand d'espoir, marchand de fable, marchand d'histoire. Quand ils s'endorment dans leur cœur, mais quelques graines de bonheur. Encore faut-il pouvoir rêver, il y a tant d'enfants dans le monde que déjà la vie a brisé dès la première seconde. Ils rêvent d'avoir des parents, tout simplement comme les autres, de devenir un jour des grands, un jour. Marchand de sable, marchand d'espoir, marchand de fable, marchand d'histoire. Quand ils s'endorment dans leur cœur, mais quelques graines de bonheur. Il y a des rêves d'enfants qui dépassent tout le monde. Ils font des pas de géants, tandis que d'autres vagabondent. Ils partent dans l'imaginaire pour s'accrocher au firmament. Ils effleurent à peine la terre des grands. Marchand de sable, marchand d'espoir, marchand de fables, marchand d'histoire. Quand ils s'endorment dans leur cœur, mais quelques graines de bonheur. Briser le rêve d'un enfant, c'est peut-être forcer le monde à devenir un peu trop grand, une boule trop ronde. Le rêve tient de la magie, c'est la porte qui reste ouverte, c'est tout ce qui donne à la vie l'envie de naître. Marchand de sable, marchand d'espoir, marchand de fable, marchand d'histoire. Quand ils s'endorment dans leur cœur, mais quelques graines de bonheur.
C'était bien sûr Georges Chelon. Alors tout de suite, on retrouve Jean-Louis Ouattet après cette bien jolie chanson. Oui, tout de suite Jean-Louis Ouattet qui va réveiller notre envie de nous mettre au vert, puisque je vous parlais tout à l'heure de couleurs. Alors voilà, on va quand même mettre son petit jingle, il sera content Jean-Louis.
Danse sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, depuis le 18 et jusqu'au 26 novembre, le Festival de l'Arbre, impulsé par la région, a pris racine dans plusieurs villes des Hauts-de-France pour célébrer le patrimoine forestier de notre territoire. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, chaque année à cette même période, nous sommes invités à nous promener en forêt ou à rencontrer des personnes qui gèrent et qui prennent soin des arbres. Ou alors, nous sommes invités à planter, soit seuls ou avec des associations, pour mettre en évidence l'importance de ces écosystèmes riches mais fragiles, on le répète, fragiles. Alors bien évidemment, Jean-Louis Ouattet, comme les années précédentes, vous et votre association L'Extrême Nature, vous vous impliquerez dans cette 6e édition. Alors je me souviens que l'année dernière, vos actions se sont concentrées autour des saules têtards. Alors la poursuivrez-vous en 2017 ou alors est-ce que vous vous êtes fixé d'autres objectifs ?
Oui, alors on a participé effectivement au Festival de l'Arbre pendant plusieurs années sur le thème du saule têtard. Bon, c'est un arbre qui fait partie de notre patrimoine, notamment ici dans les milieux humides, dans le bas pays. Alors avec notamment pour le saule têtard, la technique de taille et puis l'importance de l'entretien. Et puis, c'est vrai, les dangers aussi de l'entretien, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Ah, c'est mon jingle qui part. Donc voilà, cette année on souhaitait changer de thème en s'intéressant donc cette fois aux arbres fruitiers, parce que c'est un sujet qu'on travaille déjà depuis pas mal d'années, notamment à travers la greffe des arbres fruitiers, les plantations de haies fruitières. Bon, malheureusement, les nombreuses activités du mois d'octobre, le marché du mieux vivre, et puis aussi surtout la sortie du livre sur Pierre Justin Marie Macquart, ont fait que on a oublié d'inscrire nos actions dans les délais impartis. Donc on va pas. C'est un peu comme à Avignon, il y a le in et il y a le off. On sera dans le off.
Tout à fait, mais de toute façon, avec votre association, vous ferez quand même pas mal de choses. Alors, justement, pouvez-vous nous donner quelques rendez-vous, parce que vous allez forcément, vous n'allez pas passer à côté.
Non, on passe pas à côté. Cette semaine, par exemple, on aura une plantation de 14 arbres fruitiers à l'EHPAD. Il faut savoir qu'on a été missionné pour justement mettre en place un jardin thérapeutique et puis aménager les espaces du parc du nouvel EHPAD Saint-Exupéry à l'Étrême. Donc, ce sera jeudi matin, jeudi 23 novembre, plantation de ces arbres fruitiers pour réaliser donc un verger à but thérapeutique. C'est un espace arboré dans le parc important. Alors c'est important parce que c'est aussi un lieu de butinage. Les arbres, pas penser aux arbres en tant que tel, en tant qu'individu, mais aussi c'est un ensemble puisque les arbres fruitiers sont importants pour les insectes pollinisateurs. Donc c'est un lieu de butinage pour les abeilles sauvages parce que sans ces abeilles, il n'y aurait pas de fruits. Et puis aussi avec les fruits qu'on espère nombreux, c'est une source d'activité pour les résidents de l'EHPAD. C'est aussi pour faire des confitures, faire des sorbets. Et puis, c'est un lieu de promenade qui est agréable, puisque un verger, c'est toujours quelque chose de vivant, d'agréable.
Donc, vous donnez, si des volontaires veulent aller vous donner un petit coup de main pour planter.
Oui, si on veut venir nous donner un coup de main, c'est jeudi matin. On va faire une plantation avec des scolaires de l'Étrême. Donc, c'est aussi l'occasion de faire un peu de pédagogie. Et donc, c'est jeudi matin, 9h midi, dans le parc. parc de l'EHPAD à l'Étrême.
À l'Étrême, voilà. Alors justement, Jean-Louis, bon, vous venez d'en parler, hein, puisque ces arbres représentent quand même beaucoup pour la biodiversité, mais pourquoi justement est-il important de planter, de participer, pourquoi pas, à ce festival de l'arbre ? Est-ce que nos forêts, nos bois ou nos arbres sont-ils en danger ?
Bah, les arbres n'échappent pas à la crise écologique que nous vivons, hein. Les arbres sont victimes de l'urbanisation, de la déforestation. On le voit pas trop ici. C'est vrai que la forêt en France ne diminue pas, mais quand on regarde un peu ce qui se passe à l'échelle de la planète, si on prend l'Amazonie, si on prend aux Philippines, tout ça, on voit qu'une déforestation massive avec une urbanisation galopante et puis aussi des espaces qui sont complètement modifiés quand on voit au niveau des recherches minières. Donc tout ça, ça fait que c'est vraiment les poumons de la planète qui sont en train de souffrir. Et donc c'est important. Et puis alors le changement climatique, hein. Le changement climatique, il faut savoir qu'on a des sécheresses de plus en plus sévères et les arbres sont les premiers à disparaître. Alors ils disparaissent, mais ils créent aussi de gigantesques incendies de forêt. On passe pas une année sans voir des gigantesques incendies de forêt, que ce soit en Californie, que ce soit plus près de chez nous, hein, au Portugal, on a vu de nombreux morts dans ces incendies de forêt. Tout ça, c'est le changement climatique qui en est responsable. Et donc, nos arbres sont en danger. On a besoin. On a aussi joué aux apprentis sorciers, hein, avec des plantations monospécifiques. On a aussi mis, on va peut-être en parler après, des arbres qui, la main de l'homme, n'a pas été bénéfique, loin de là.
Alors justement, bon, d'après vous, je pense que vous souhaiteriez qu'on étende ce festival de l'arbre à toute, sur le plan national, à toute la France, et puis aussi que ça devienne finalement quelque chose d'européen, voire de mondial finalement. Ce serait pas mal.
Oui, ce serait pas mal. Hein. De toute façon, l'arbre fait partie justement de cette crise écologique. Hein. Mmh. C'est un problème mondial. Hein. Ça n'est pas qu'un problème dans la région Hauts-de-France, c'est un problème mondial avec des crises beaucoup plus importantes dans des pays comme, je disais, le Portugal.
Mmh, l'Amazonie, etc.
Voilà.
Alors justement, bon, le Festival de l'Arbre, c'est une initiation de la région et parlons-en de cette région puisque l'année dernière, les forêts de Boulogne, de Dèvres, d'Ardelot, de Vimy dans le Pas-de-Calais et de Nieppe dans le Nord ont été inaccessibles et fermées donc à cause d'un champignon qui attaquait les frênes, ce qui fit dire à Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles, il disait, lorsqu'on décide de trop intervenir dans la nature, lorsqu'on fait des coupes à blanc, lorsqu'on ne tient pas compte du réchauffement climatique, lorsqu'on massacre autant les végétaux qu'aujourd'hui, la main de l'homme est bien sûr responsable de ce qui arrive. Donc, d'après ce que vous disiez auparavant, vous êtes d'accord avec lui, Jean-Louis ?
Oui, oui, tout à fait. Hein. Alors, parlons de ce champignon. Hein. C'est Calara fraxinea. Donc, il s'attaque au frêne. Il est responsable de ce qu'on appelle aujourd'hui la chalarose du frêne, qui décime de nombreux arbres de nos forêts. Et puis, bon, faut savoir que ces arbres qui sont décimés, ça devient c'est quand même dangereux. C'est à expliquer la fermeture des forêts dans la région. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir trop maîtriser, faire de nos forêts des lieux de détente, ouvrir trop au public. Et inévitablement, on va provoquer des déséquilibres puisque, pour accueillir le public, il faut pas qu'il y ait trop de ronces, il faut pas qu'il y ait de moustiques, etc. Tout ça, on déséquilibre les milieux, et puis on oublie que tout ça c'est un ensemble et que l'arbre tout seul n'a pas de vie possible s'il n'a pas un écosystème tout autour. Donc voilà, donc là la main de l'homme des équilibres et tout. Et puis alors on a aussi l'introduction d'espèces exotiques. Hein. Faut savoir que maintenant avec la mondialisation, ben on introduit des espèces exotiques qui provoquent aussi, elles aussi, malheureusement des déséquilibres. On dira jamais trop assez de penser quand on fait des plantations à planter des espèces locales, hein, privilégier les espèces locales plutôt que le beau et le coloré. C'est vrai qu'on a c'est quelquefois tentant d'aller mettre une espèce exotique. Malheureusement, ça provoque aussi des déséquilibres. Et les échanges internationaux, ben, ont malheureusement amené des ravageurs. Je pense par exemple au papillon, hein, du palmier, par exemple dans le sud, c'est un papillon qui est arrivé dans du bois qui venait d'Amérique du Sud et qui est en train de faire des ravages dans tout le sud de la France sur les palmiers. Donc c'est vrai que la main de l'homme est responsable.
En tout cas, ils communiquent, ils s'entraident, ils savent se défendre aussi. Et Peter Wolleben, un forestier allemand, prête aux arbres des caractéristiques humaines. Il a d'ailleurs sorti un livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier. Et rien qu'en Allemagne, il s'est écoulé à plus de 65 000 exemplaires, ce livre. Alors c'est un véritable best-seller, déjà traduit en 32 langues. Cela a donné d'ailleurs un superbe film. Et il est vrai, Jean-Louis, qu'après avoir lu cet ouvrage, on considère les forêts comme des endroits magiques. C'est un livre passionnant et fascinant, scientifique certes, mais accessible à tous et surtout très écologique. Et l'auteur multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres.
Oui, tout à fait. Ben, bon, je vais pas mentir, je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai vu des émissions. J'ai vu notamment, il y a eu une émission envoyée spéciale qui a été consacrée justement à ces forêts, à ces arbres, et puis à partir de ce forestier allemand. Donc oui, il est vrai que les arbres communiquent entre eux, hein, se transmettent des informations via notamment les réseaux de champignons. Il suffit dans la forêt de voir chez soi, de voir aux proximités des arbres des champignons. Donc ça vit en symbiose. Donc ça permet aux arbres de communiquer entre eux, de prévoir les dangers. Et donc il y a des études qui ont été faites, notamment je pense c'est en Afrique du Sud, et les études sur les acacias qui ont montré que les arbres étaient capables de se défendre face à la déforestation, face aux agressions climatiques.
Tout à
et
fait.
Que leurs feuilles devenaient toxiques. Hein. On a découvert dans les estomacs des animaux, des chercheurs qui ont découvert des feuilles qui étaient d'acacias qui étaient devenues toxiques.
Tout
alors
à
que
fait.
C'était la nourriture privilégiée de ces animaux.
Alors justement, Jean-Louis, puisque vous ne l'avez pas lu, c'est bientôt Noël, alors il faut demander à votre entourage qu'il vous l'offre, ce livre. Et alors parce que cet ouvrage vient de paraître aux éditions Michel Lafon, et il y a un autre ouvrage qui est aussi paru aux mêmes éditions, un superbe ouvrage à l'attention des enfants de tout âge. Hein. Ça s'appelle « Écouter les arbres parler » et il emmène ainsi nos têtes blondes pour une expédition extraordinaire à travers les bois, à découvrir les nombreux secrets sur tous ces êtres qui peuplent la forêt, et ils apprennent ainsi des choses amusantes et surprenantes sur les arbres, certes, mais aussi sur les animaux, les insectes et les oiseaux qui vivent au contact de ces arbres, car il ne faut pas oublier que tout cela est systémique et que notre avenir en dépend. Et ça, vous justement, vous aussi, vous le savez, vous le répétez, vous l'avez déjà répété en début d'émission, les arbres, il y a tout un monde animal et un autre monde végétal et un monde animal et aussi un monde d'insectes qui leur est inféodé, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et puisqu'on en est à Noël, on a aussi notre petit livre pour Noël à offrir sur Pierre-Justin-Marie Macquart. Et au chapitre des arbres, il y a il y a 50 fiches sur les plantes et les insectes associés. Et sur ces 50 fiches, il y en a une quinzaine sur les arbres et les arbustes. Et en particulier, pour montrer justement cette communication, si on prend un arbre qui était emblématique dans le le parc du château à l'Étrême, c'est un marronnier d'Inde. Bah, il faut savoir que les arbres communiquent puisque les fleurs de ce marronnier changent de couleur, elles virent au rouge pour signaler aux insectes qu'elles ont été pollinisées. Donc voilà. C'est une forme de communication avec leur entourage, avec les insectes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fantastique.
Tout
donc,
à fait.
Voilà.
Eh bien voilà, justement Jean-Louis, ben, aujourd'hui non seulement nous avons pris une bonne bouffée d'air pur, mais en plus on a aidé nos auditeurs à trouver de superbes cadeaux de Noël pour petits et grands. Et on peut assurer que rien ne va dans notre poche, n'est-ce pas Jean-Louis?
Tout à fait. Ici, nous, la vente de notre livre, c'est au bénéfice de l'association.
Voilà.
C'est donc 10 euros pour l'association L'Étrême Nature.
Merci Jean-Louis, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci
bonne
Jean-Louis.
Semaine.
Au revoir.
Faisais ce rêve, enfant. Je m'éloignais de la clairière pour pénétrer ce bois devant. Plus j'avançais, moins j'y voyais clair. Je m'égarais seul dans le noir, m'enfonçant. Je devinais, le rêve avait viré cauchemar, puisque personne, personne ne me cherchait. Dans cette forêt, j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal. Obscure et verte cathédrale écrasante.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Et oui, Bertrand Trinel, bonjour.
Bonjour Martine et bonjour chers auditeurs.
Alors, on ne peut pas meilleur enchaînement en vous ayant à ce micro, Bertrand, car amoureux des arbres, vous l'êtes. Et justement, avez-vous lu, vous, ce superbe ouvrage de Peter von Leben? Ou peut-être, vous avez peut-être vu le film, non?
Alors non, j'ai lu le livre « La vie secrète des arbres hein. ». En fait, ce livre dévoile une petite partie de ce qu'on sait actuellement sur l'intelligence des arbres. Donc moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai déjà donné plusieurs conférences sur le sujet. Et la prochaine conférence que je donnerai là-dessus, c'est le 1er décembre à la médiathèque de Mont-Bernanfon. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent, ils peuvent se renseigner au niveau de la mairie de Mont-Bernanfon.
Tout à fait, voilà. Eh bien, alors, justement, le dicton pour cette période à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. La Sainte-Catherine, c'est samedi prochain. Et je suppose que ce dicton est vrai et que c'est pour cette raison que notre région des Hauts-de-France a choisi cette semaine, justement, pour le Festival de l'Arbre.
Oui, ça fait maintenant quand même quelques années que la région organise le Festival de l'Arbre. Le but, c'est de replanter des arbres hein, par les collectivités, par les communes, par les associations. Et donc de faire des plantations, effectivement, c'est novembre, c'est tout à fait le bon moment pour ça.
Alors justement, Bertrand, votre association des paysages, des jardins et des hommes a elle aussi participé à ce festival. Et samedi dernier, vous avez donc planté.
Effectivement, donc comme chaque année, on participe à cette opération. Et on plante des arbres, des arbustes avec des bénévoles vraiment très motivés, qu'ils soient adhérents ou non à l'association PJH. Hein. Par exemple, il y a 2 ans, on a planté une haie de champêtre sur 2 rangées, autour du jardin de l'ermite, hein, plus de 650 arbustes, 85 espèces différentes. L'année dernière, c'était des grands arbres offerts par les adhérents à l'occasion d'une naissance ou pour faire à l'association. Et cette année, on a planté pas mal d'arbres et arbustes toujours dans le jardin. Par exemple, on a planté un plaquemunier qui donne les kakis, on a planté des poivriers du Sichuan, des cerisiers du Canada, qui ne font que 2,50 m de haut à l'âge adulte, hein, c'est très intéressant. Mais par exemple, s'il y a un cercidiphyllum, l'arbre au parfum de caramel, et bien d'autres arbustes et arbres, hein, et donc des pommiers colonnaires.
Alors justement, Bertrand, qu'est-ce qu'un pommier colonnaire ?
Alors, un pommier colonnaire, c'est tout simplement un pommier qui pousse verticalement, voilà, en colonne.
Tout à fait, donc ça ne prend pas beaucoup de place. Hein. Je suppose que c'est un désavantage quand on a un tout petit jardin.
Effectivement, ça ne prend pas de place, presque pas de place, parce qu'il pousse verticalement, sans faire de branches latérales. Hein. Il a, adulte, il a un diamètre de 50 à 60 cm de diamètre, hein. Et c'est vraiment une colonne. Il pourra atteindre 4 mètres de haut, pas besoin, et surtout l'avantage également, besoin d'aucune taille. Franchement, c'est franchement spectaculaire de voir. C'est une colonne de pommes, des pommes sont tout autour du tronc, partout là. C'est magnifique. C'est, en plus, c'est très productif. Et bon, si vous voulez faire une allée dans votre jardin, ça marche très bien avec ça.
Et pas de taille, donc ça c'est bien, ça me convient bien, ça.
<C'est super. rire>
Quand on n'y connaît rien. Alors bon, justement, vous avez planté ça au jardin de l'ermite, hein, dont on a déjà parlé. Alors ce jardin, je rappelle qu'il est naturel, sans aucun produit phytosanitaire, et vous aurez sans doute la chance, donc Bertrand, de pouvoir manger des pommes bio, parce qu'il faut savoir qu'une pomme qui n'est pas issue de l'agriculture biologique subit en moyenne 36 traitements chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Mais justement, Bertrand, beaucoup de personnes se demandent comment font les producteurs bio pour ne pas avoir de vers dans leurs fruits.
Bon, alors déjà, il faut savoir que ces traitements pesticides qui traversent la peau de la pomme, on en retrouve 30% dans la chair. Donc alors, même en les lavant, en les épluchant, on ingère un cocktail de pesticides, hein, ça c'est évident. Si on prend le cas du citron, qui n'est pas bio, avec sa peau qui est très épaisse, on peut se dire quand même que l'intérieur est protégé. Et bien, comme la peau est très épaisse, on autorise de faire 50 fois plus de traitements que sur les pommes. Ce qui fait qu'il n'y en a que 10% qui passent à travers la peau. Vu qu'il y a 50% plus de traitements, et bien les citrons qui ne sont pas bio sont beaucoup plus pollués que les pommes. Ça, il faut savoir aussi. En ce qui concerne le bio, donc on peut commencer par choisir des variétés qui sont peu sensibles aux maladies. Hein, après, on peut faire des traitements préventifs, à base de purin, par exemple des décoctions de prêle, qui est un bon fongicide naturel. Également des traitements à base de poudre de roche, par exemple la poudre de basalte. Mais surtout dans un jardin, dans n'importe où on est, il faut réussir à créer un équilibre. Je l'ai déjà dit la fois dernière, tous les dangers sont dans le jardin, hein, mais c'est pas parce qu'il y a trois pucerons qu'on va déclencher un plan hors sec. Hein. Donc, mais dès qu'on a créé un équilibre, les dangers sont là, les auxiliaires sont là. Donc on a moins de problèmes. Alors pour le vers de la pomme proprement dit, hein, ce sont des larves d'un petit papillon, le carpocaps, qui font les dégâts. Donc on peut déjà commencer par mettre des nichoirs pour des mésanges, etc., dans les arbres. Moi je connais un arboriculteur bio au Canada qui met 100 nichoirs par hectare. Donc les oiseaux font le ménage. En juin, on peut également entourer les arbres d'une bande de carton à 20 cm du sol, d'une bande de carton d'emballage de carton alvéolé. Là. Comme ça, les larves vont se mettre dans les trous des cartons avant de se métamorphoser. En septembre, on récupère les cartons et on les brûle. Donc on élimine déjà une bonne partie des arbres. Après, on peut installer des pièges à phéromones. Donc l'odeur de la femelle va attirer les carpocaps mâles. Et puis du coup, ils se retrouvent piégés. Donc ils ne vont, vont pas pouvoir proliférer. On peut pulvériser. Alors ça, c'est une chose aussi qui est faite, qui marche très bien. C'est un traitement tout à fait naturel. On pulvérise du sucre, mais alors à dose très, très, très faible, 1 gramme pour 10 litres. Enfin, pour 10 litres d'eau, pardon. 1 gramme pour 10 litres d'eau de sucre. On fait bien dissoudre, on mélange longuement et on pulvérise sur les fruitiers. Et en faisant ça, on s'est aperçu qu'il y avait 63% de moins de dégâts pour le vers de la pomme. Bon, et surtout aussi à l'automne, on ramasse toutes les pommes qui sont tombées. On ne les met pas dans le tas de compost, parce que sinon les larves vont vivre dans le tas de compost et ressortir se métamorphoser et ressortir au printemps. Donc on ne les met pas dans le tas de compost, on les brûle, on les met dans la déchetterie, on les met où on veut, mais on ne les met pas là. Et ensuite, il faut avoir des poules dans son jardin, laisser courir des poules qui, elles, font aussi un bon ménage de tout ça. Voilà.
Eh bien voilà. c'est formidable. Le livre de recettes a été ouvert. C'est vrai que rares sont les gens qui peuvent répondre de cette façon-là. Même j'ai eu l'occasion de contacter justement à la fête de la tomate des gens qui cultivaient les pommes. Eh bien, ils n'ont pas eu toutes ces réponses. Merci Bertrand, vraiment. Alors justement, parlons de votre association Bertrand Trenel des paysages, des jardins et des hommes. À savoir qu'elle a eu en début de mois moi un geste formidable, hein, puisque grâce à vous, les enfants de l'atelier du jardinage ont fait un don des quelques centaines de kilos de légumes à l'épicerie solidaire intercommunale. Et quand on voit la diversité de ces légumes, leur couleur, leur fraîcheur, leur taille, voire leur grosseur, on en bave d'envie. Alors je me souviens, Bertrand, d'un article du journal L'Humanité qui disait « Plus les fruits sont beaux, plus ils sont chargés de pesticides. » Donc, pas chez vous. Et j'invite nos auditeurs à se rendre sur votre site ou alors sur votre blog pour se rendre compte que contrairement à ce que pensent ou à ce que disent certains, jardiner bio donne des résultats dont vous pouvez être fiers. Et puis, quel plaisir de manger sain.
Alors, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, par contre, je vais remettre un peu le contexte du jardin. C'est Julien Perret, notre vice-président, qui est à l'initiative de cette belle action de solidarité. Hein. C'est lui qui s'occupe des cours de jardinage pour les enfants, et puis il souhaitait inculquer aux enfants des valeurs de solidarité. Donc c'est vrai que c'est super de faire ça, et les enfants sont hyper fiers de donner leur production, tout au moins une partie de leur production, et je pense que ça va rester gravé dans leur mémoire toute leur vie. Alors concernant les légumes bio, je vois pas pourquoi ils seraient moins beaux que les légumes traités. Alors c'est sûr, quand on récolte des légumes du bio dans son jardin, bah, ils sont pas tous uniformes, ils ont pas tous la même forme, ils sont pas tous de la même grosseur, de la même grandeur, ils sont pas tous identiques. Par contre, le rapport nutritionnel est nettement supérieur. Ils ne contiennent en plus aucun pesticide, ce qui est pas négligeable. Hein. Donc pour la santé, franchement, il faut manger bio, le plus possible bio. Et surtout, moi, ce que je voudrais conseiller, c'est surtout les femmes enceintes, ne pas manger autre chose que du bio tant qu'elles sont enceintes, parce que l'enfant va absorber tous ces pesticides et tout ça, et ça peut être très, très, très néfaste
c'est
pour l'enfant.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, c'est bien d'inviter nos éditeurs à venir à la rencontre du Jardin de l'Ermite, hein, à aller voir notre blog. On a ouvert également une page Facebook des paysages des jardins et des hommes.
Et alors justement, pour visiter votre blog, ben, il ne faut pas chercher de complications. Il suffit de taper dans un moteur de recherche des paysages, des jardins et des hommes et on tombe dessus.
Tout à fait.
Et de magnifiques photos. En tout cas, merci Bertrand Trinel, merci. Et on se dit à la semaine prochaine.
D'accord, à la semaine prochaine.
Et justement, à la semaine prochaine, avec vous, on l'avait déjà promis, on parlera compost. Merci Bertrand.
Allez, bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Un jour, le roi des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt. Le chêne à brosse et liane, le cèdre du Liban et le vieux pin des Landes consultent un vaste plan. Le vent porta l'affaire à travers les forêts, les arbres de la terre ont déclaré la paix. Vivre était leur désir, porter chacun leurs fruits. C'était vaincre ou mûrir, leur devise et leur cri. Leurs fleurs en grand mystère, imperceptiblement, s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques des bateaux, au linteau des soupentes et aux traverses du métro. Du papier dans les livres et du corps des crayons, le bois semblait revivre et devenait chanson. Libres de leurs amarres, les mâts qui naviguaient répondaient aux guitares et les arbres chantaient.
Point de mire avec nous, après Yves Dutheil, en point de mire avec nous aujourd'hui, une initiative pour notre dernière rubrique, initiative avec Amandine Deken. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Alors, initiée il y a près de 30 ans au Québec, les coopératives jeunesse de services, qu'on appelle les CJS, ont fait leurs preuves et sont actuellement déployées en France. Alors, à Breuil-la-Buissière, ils sont 10 jeunes, je crois, hein, entre 18 et 25 ans, à adhérer à ce projet. Et pendant ces 6 prochains mois, ils vont travailler d'arrache-pied pour le mettre en place, le valider, le faire vivre. Donc, Amandine, comme vos 9 autres camarades, vous tentez cette belle aventure collective de relever le défi de mettre sur pied votre entreprise de type coopératif. Alors j'ai envie de vous poser la question de savoir par qui a été initié ce beau projet et justement dans quel but.
Le projet a été porté par l'Office de la Jeunesse, par Mme Florence Demange, il y a 2 ans, en collaboration avec Grand Ensemble, la Ligne de l'Enseignement et le Puy de Béthune et d'autres partenaires. Le but, c'est de permettre à des adultes de 18 à 25 ans de créer leur entreprise coopérative pour une période de 6 mois, de la faire vivre à travers des prestations qu'UNOCOOP propose aux particuliers, aux entreprises, aux associations du territoire de l'agglomération. Ces prestations sont tarifées, nous sommes donc entrepreneurs salariés de notre entreprise.
Alors, je suppose que vous avez chacun votre parcours et vos objectifs, et justement chacun, qu'attendez-vous sur le plan personnel chacun d'entre vous?
La plupart d'entre nous, c'est de pouvoir tester la solidité de notre propre projet professionnel, et peut-être avoir... Peut-être soit la création d'entreprise, d'acquérir plus de compétences pour entrer sur le marché de l'emploi ou de reprendre ses études.
Alors Amandine, avez-vous bénéficié d'une formation, voire intensive, en entrepreneuriat collectif?
Oui, la première semaine d'octobre, on a suivi une formation. Ça nous a permis d'avoir les bases sur les ressources humaines, la finance et le marketing pour pouvoir organiser l'entreprise avec ses 3 services. On a également eu des informations sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons appris que dans la coopérative, chaque coopérant dispose d'une voix de vote pendant les conseils d'administration pour valider ou non les décisions prises par l'entreprise. Il y a une hiérarchie entre nous. Nous avons élu des membres d'un bureau exécutif. Il y a un président, un secrétaire et une trésorière.
Un petit peu genre, association. Alors, vous êtes donc en train de monter une structure de service à la personne. Alors, pouvez-vous d'ores et déjà établir une liste de ces services?
Il n'y a pas que des services à la personne. On travaille avec des entreprises locales, telles que Tadao et Maison et Cité. Pour vous donner des exemples de prestations, là, on est sur la confection et la vente d'articles de laine. La création de meubles en bois avec la récupération des palettes, les services à la personne pour leur tenir compagnie ou des petits ménages, animation sportive, travaux d'espace vert, et ainsi de suite. On a plusieurs.
D'accord.
Là, on a eu un partenariat avec Tadao pour la distribution de flyers et informer les clients par rapport aux travaux qu'il y a eu sur Bois et la Bussière. Et là, on a ouvert une page Facebook où tout est notifié, les prestations qu'on fait.
D'accord. Alors, vous êtes 10 à vivre cette expérience collective, grandeur nature, on va dire, et à appréhender le monde du travail. Alors, quelles sont les fonctions de chacun et par qui seront assurées les prestations?
L'entreprise, elle est constituée des 3 services et du bureau exécutif. Les ressources humaines, elles s'occupent de la création d'outils pour le bon fonctionnement et le bien-être des salariés. Les plannings, notes de service. Il y a le service finance pour les devis, les factures et suivi de trésorerie. Et il y a le service marketing pour faire la promotion, la communication, l'image de la marque de l'entreprise sur le territoire. Et le bureau exécutif nous représente dans les réunions, dans les événements officiels et veille au bon déroulement du conseil d'administration.
D'accord, mais ça c'est de l'administratif. Qui va aller faire les tâches?
Il y a tous les coopérants. Par rapport à leurs compétences.
D'accord.
Qui vont faire les différentes prestations.
D'accord. Alors, Amandine Desquen, service à la personne, certes, quels peuvent être les avantages pour celles et ceux qui feront appel à vous?
Nous allons autant que possible proposer des services personnalisés qui répondent au mieux aux demandes des clients et à des tarifs compétitifs.
Alors, vous allez découvrir avec cette entreprise une facette de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez dit, mais justement, pensez-vous pouvoir pérenniser l'action afin qu'elle puisse aboutir sur une, voire des embauches?
La création d'UNOCOOP peut nous aider à nous insérer dans le monde du travail, à créer nos réseaux de partenaires économiques, organisations, entreprises locales, nous aider à reprendre des études ou nous aider à créer notre propre entreprise.
Alors, Je suppose, Amandine, que tous vous êtes épaulés dans ce parcours.
Oui, on est épaulés par un comité local composé de l'Office de la Jeunesse, la Ligue de l'Enseignement, Grand Ensemble, la Mission Locale, le Puy de Béthune et d'autres acteurs du territoire Béthune, Brouhé, Artois, Romane. Nous sommes accompagnés par le cabinet Ashworth en la personne d'Ingrid Enbel. Nous travaillons avec deux animateurs qui nous accompagnent et nous encadrent au quotidien. Nous remercions également la structure de Béthune, Brouhé, Artois, Romane de nous accueillir dans les locaux de l'écoquartier Les Alouettes.
Alors, chacun d'entre vous va donc découvrir, gérer, et c'est sûr que cette entreprise sera très formatrice. Et puis, pourquoi pas, on pourra se donner rendez-vous pour savoir ce que ce projet vous aura apporté, n'est-ce pas? En tout cas, bon courage à vous. Bon, et on dit l'union fait la force, hein, dit un proverbe. Alors, si le courant passe bien entre vous, cela devrait vous apporter la lumière. En tout cas, bon courage. Et surtout, on vous souhaite de réussir. Merci. Merci à vous, Amandine.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Un appartement.
Ah ouais, toi aussi?
Salut, oh mes frères, cessez de vous en faire. J'suis un bon pour les mères, j'bosse chez Air Hunter.
Salut à vous, à moins que vous ne désiriez continuer avec moi pour écouter de la bonne musique et quelques bonnes chansons. Car tout de suite après la petite page publicitaire, ce sera Kaléidoscope. Sinon, si vous avez décidé de me quitter maintenant, eh bien bonne semaine à vous et surtout restez en forme. Bye bye.